Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous, chers amis de Positron, je suis Patrick Béja et nous vous proposons encore une fois aujourd'hui un épisode d'une durée d'environ 20 minutes a priori, avec trois trucs cool qu'on va vous proposer et trois trucs d'autant plus cool que après une session un petit peu laborieuse quand même, la précédente, il faut avouer qu'elle était franchement pas extraordinaire, hein, et bien là nous avons de vrais invités qui sont de vraies qualités, à savoir Jérôme Kainborg et Timothée Graveline. Comment vas-tu, Timo? Comment vas-tu, Jérôme?
Eh bien, ça va très bien. Merci pour tous ces compliments. Je pense que tu fais les mêmes à chaque fois.
Mais pas bon, du tout. Mais comment oses-tu dire une telle chose, Jérôme?
Je suis outré. Tu nous mens, Patrick. Il y a quelque chose de faux dans ton émission.
Bon, Jérôme, j'espère que tu es en forme. Tu es mon camarade d'Upload et d'autres émissions également. Je suis content que tu viennes me rejoindre dans Positron pour la quoi, deux, troisième fois, quelque chose comme ça.
C'est la troisième, voire peut-être. La quatrième. J'ai fait les premiers avec toi.
C'est vrai, tu es un ancien.
C'est la première session, ouais, je suis un ancien, ouais.
C'est vrai. Et Timo, qui nous rejoint de, notamment Geek Inc, hein, c'est ton premier Positron.
Ouais, c'est mon dépucelage de positron aujourd'hui.
Ça commence. Mais t'inquiète pas, on va le processus.
Tweeter ça, hein, c'est la phrase du jour. Je me suis fait dépuceler le positron.
Non, c'est un. Il y a au début, comment ça s'appelle le truc quand il y a les nouveaux qui arrivent et qu'on les fait souffrir.
Le bizutage.
Voilà, le bizutage. On va faire alors un mix entre bizutage et positron. Je sais pas, positronnage. Bizutronnage, ouais. Bizutronnage, c'est pas
ça
mal.
Ça devient crade, hein.
Bon, mais vous savez quoi? On va relever le niveau quand même dans cette émission parce qu'on a trois recommandations d'immense qualité et je vous propose que je me lance immédiatement. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, bah, go.
Ok. Ah, merci, Jérôme. Il y en a un qui suit Upload. Remarque, en même temps, t'es dans l'émission, donc.
Oui. Non, mais j'écoute même pas ce que je dis, hein, moi, quand je fais Upload. Hein. Ça s'entend, non?
Un petit peu. Bon, vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est Positron. Et j'ai une double recommandation. En fait, c'est un truc que j'ai recommandé dans plein d'endroits, à plein de gens. Et j'ai vérifié, j'en avais pas, jamais parlé dans Positron, ce qui est quand même assez surprenant parce que j'adore cette chose. Et cette chose, c'est, je crois, une première parce que c'est pas une série télé, c'est pas un film, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un roman. C'est une chaîne YouTube. Et c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Crash Course. Crash Course, ça veut dire leçon rapide, en quelque sorte, en anglais. C'est genre, si t'as besoin de savoir l'essentiel sur un sujet, tu vas prendre un Crash Course. C'est genre, tout ce dont t'as besoin de savoir en quelques minutes, quelques heures, voilà. Et en l'occurrence, c'est une chaîne YouTube qui a été créée par deux... Je sais pas s'ils sont profs ou académiques, enfin... Ils sont dans le monde de l'éducation, si je ne m'abuse, au moins l'un d'entre eux, c'est les frères Green. Et ils ont débuté ça avec... l'idée, c'était de faire des cours, des vrais cours, sur des sujets spécifiques, des séries de cours, en fait, sur des sujets spécifiques, sur YouTube, avec la logique YouTube, mais la logique, ce qu'il y a de bien dans la logique YouTube, c'est-à-dire un petit peu d'humour, du dynamisme, un montage rapide, un montage où on s'ennuie pas, mais c'est pas les côtés négatifs de YouTube, tout ce qu'on peut imaginer, enfin je sais pas moi, les chats sur des skateboards ou les gens qui font de la vulgarisation. Oui, mais c'est pas super bien pour les cours sérieux, on va dire. Et en fait, la raison pour laquelle j'apprécie particulièrement cette chaîne, à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui me disent « Ah mais oui, mais on a... » Ah oui, précision importante, c'est en anglais. Et a priori, c'est en anglais uniquement. Donc, ça veut dire que... il faut absolument parler anglais. Bon, il y a les sous-titres, traductions automatiques qui sont franchement pas si mauvais que ça.
Ils sont bien, ouais. Ils sont très bien, je les ai vus...
Oui, tu regardes la chaîne, toi, Timo?
J'ai regardé sur le document, j'ai regardé.
Ah oui, d'accord, et donc t'es allé voir.
Du coup, je suis allé voir un peu, et c'est vrai qu'il y avait les sous-titres qui étaient déjà marqués automatiquement, enfin, en français. Et Il m'avait l'air hyper propre. Je me demande
si c'est pas préfet, en fait. Si c'est pas traduit.
En fait, il y a une fonction aussi maintenant dans YouTube. Tu peux permettre aux gens qui te regardent de participer aux sous-titres. Donc, je pense qu'il y a aussi une communauté derrière qui doit rectifier tes sous-titres automatiques.
Parce que là,
c'est une fonction qu'on peut cocher dans YouTube.
Vous avez raison. Vous avez raison. En plus, ils sont en partie financés par PBS, qui est la télé et la radio publique aux US. Et ils sont sur Patreon aussi. Ils se font financer par la communauté. Moi, je participe depuis un moment. Et donc, oui, il est pas impossible qu'ils aient les sous-titres, ne serait-ce que en anglais pour les malentendants. Et puis, du coup, tu fais traduire après. Donc, bref, c'est disponible effectivement sur YouTube gratuitement pour tout le monde. Et la raison pour laquelle je préfère cette chaîne à beaucoup d'autres, c'est parce que je reprends le fil de ma pensée. Beaucoup de gens me disent, mais il y a plein de chaînes YouTube pleines d'éducation et dans d'autres langues aussi. On en a en France, etc. Et il y en a en anglais, il y en a plein. Mais grosse différence avec celle-ci, c'est que c'est des cours qui se suivent. Il y a 10, 20, 30, 40 cours sur un sujet, alors que souvent, il y a d'autres chaînes qui sont très très bonnes. Je pense notamment à celle qui revient tout le temps, c'est Eux Penser ou Y Penser.
Y Penser, qui est très
bonne.
Ouais.
Franchement, oui, il fait des trucs très bien, mais c'est pas aussi, je dirais, il y a pas une intention aussi académique et c'est pas des, c'est-à-dire que sur Crash Course, il va y avoir des sujets très spécifiques, par exemple l'anatomie, vous allez avoir 40 cours sur l'anatomie.
Il y a une vraie rigueur pédagogique, même si l'approche est divertissante, il y a une vraie rigueur pédagogique sur Crash Course.
Et il y a donc, ils ont commencé avec la biologie, je crois, pas l'anatomie, c'était la biologie et l'histoire. Et puis maintenant, il y a, je sais pas, peut-être une quinzaine de sujets différents avec différents professeurs et animateurs. En fait, ils sont autant animateurs que professeurs. Il y a des séquences animées avec des petits graphiques animés qui sont très bien foutus. Donc il y a, pour vous donner une idée des sujets, la chimie, l'écologie, ils viennent de commencer la philosophie, il y a l'économie, l'astronomie que j'adore, moi il y a une série de 46 cours sur l'astronomie qui est magnifique, et ils réussissent à rendre plein de trucs intéressants. Il y a par exemple gouvernement et politique américain, et qui est super bien fait. Il y a là 46 cours, moi je les dévore, et au final il y a des centaines de vidéos, et franchement c'est une ressource incroyable. C'est un petit peu à l'enseignement facile, hein. Encore une fois, c'est Crash Course, c'est pas un cours d'université, mais c'est un petit peu à l'enseignement facile ce que Wikipédia est aux encyclopédies. C'est pas une comparaison vraiment valable, parce que Wikipédia est une encyclopédie du calibre des encyclopédies classiques. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on en ressort avec autant de connaissances que si on suit un gros cours et qu'on n'est pas hyper attentif, et genre c'est ce qui reste, quoi. Mais c'est drôle, intelligent, intéressant, bien fait, court, parce que chaque cours fait environ 10 minutes, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, donc c'est pas des trucs qui vont vous occuper une heure et vous allez vous endormir. C'est 10 minutes et vous pouvez vous en enchaîner 2, 3, 4, 5, 6, 10 si vous voulez. Je ne tarie pas d'éloges sur Crash Course. C'est une chaîne YouTube que j'adore et que je pense qu'il devrait presque être obligatoire à regarder qui que vous soyez, quoi. Donc c'est vraiment chaîne YouTube pour tous. Crash Course, je la recommande à absolument tout le monde. Allez y jeter un coup d'œil. C'est presque une supplique, quoi. Je vous en supplie, allez regarder. vous serez satisfait. Vous en sortirez content, quoi.
Ah bah, cette chaîne plus TED, vous êtes définitivement moins con, quoi.
C'est sûr. Ah,
vous regardez les deux, vous devenez super intelligent.
Tu regardes, toi, Crash Course, Jérôme ?
Oui, je regarde quand j'ai le temps. J'avoue que c'est ce qui me manque. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, voilà, de la pédagogie entertainment réussie.
Complètement.
Voilà.
Timo, pardon, tu avais une question.
J'ai une petite question. Est-ce qu'ils donnent des exercices? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu es vraiment juste spectateur, tu regardes et c'est à toi de te débrouiller à fignoler plus loin après?
Ben en fait, c'est pas un truc où tu vas. Non, il y a pas du tout d'exercice. C'est pas des cours. Ouais, peut-être que c'est un petit peu trompeur de dire que c'est des cours. C'est pas des cours où ils vont dire alors voilà, 1 plus 1 égale 2, maintenant essayez 1 plus 2 quoi. C'est pas du tout ça, c'est vraiment presque documentaire limite, tu vois, c'est que tu regardes.
Ouais, c'est de la culture.
Ouais, voilà.
C'est un peu du ça m'intéresse en mieux voilà c'est du c'est pas sorcier en un peu mieux, c'était bien c'est pas sorcier.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ouais, en regardant un peu la chaîne, ça m'a fait de suite penser à c'est pas sorcier aussi. Ouais. Avec les petites animations et tout qui expliquent.
C'est ça. Et vraiment, il y a des sujets tellement divers. Il y a l'histoire du monde par exemple qui est magnifique quoi. Il y a des, et puis ce qui est marrant, c'est que comme toute bonne série, il y a une sorte de mythologie qui s'instaure dans le truc US Governments and Politics. Il donne des coups de poing à des aigles tout le temps. Chaque fois, pareil, dans chaque épisode, à un moment, il fait une blague en donnant un coup de poing à l'aigle. C'est débile, mais au bout d'un moment, ça devient marrant. Il joue de ça dans l'histoire. Il parle toujours des Mongols parce que dans toute l'histoire, les Mongols, c'est l'exception sur tout. Genre tous les trucs qu'on a dit qui étaient impossibles à faire ou qui n'arrivaient jamais dans l'histoire, bah les Mongols, ils l'ont fait quoi. C'est genre la Chine est impossible à conquérir, sauf les Mongols, le machin. Et à chaque fois qui parle d'un truc, qui dit c'est impossible. Bon, sauf les Mongols. Et là, il y a une petite animation qui passe avec les Mongols et bref, vous avez compris, c'est sublime et drôle et bien fait et ça devrait être imposé à tout le monde. Voilà, je me tais parce que sinon je ne me tairai jamais.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement ce type de programme, on parlait de ça, de C'est pas sorcier, c'est des choses qui n'existent plus à la télé. Et c'est là où YouTube vient apporter des choses qui peuvent vraiment, on va dire, éduquer les masses. C'est pas ce que je voulais dire, mais voilà, des vrais programmes à la fois éducatifs et divertissants, qui a un vrai public pour ça. Contrairement à ce qu'a l'air de croire la télé française.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, Jérôme, à ton tour.
Eh bien, moi, je vais vous parler de Narcos. Narcos, la série qui en met plein le nez. Narcos, vous en avez peut-être entendu parler. Vous pourrez la découvrir sur Netflix, hein, si vous êtes abonné sur Netflix. Je crois qu'elle est aussi disponible sur OCS. Mais...
Pardon, je fais juste une toute petite parenthèse. Ouais. Dans cette session, dans les précédentes aussi, on a beaucoup parlé de Netflix. Dans cette session, on va beaucoup parler de Netflix aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à Netflix, je ne sais pas ce que vous faites. C'est vraiment le fournisseur officiel de séries de Positron et elles sont toutes d'excellente qualité. Donc,
je sais que sur ma chaîne YouTube, j'avais fait le test de Netflix à l'époque et j'avais dit il n'y a pas grand chose de bien, machin. Ça a complètement changé en un an. Netflix France,
C'est surtout pour les séries, quoi.
Les séries, c'est vraiment bien. Ouais. Vraiment bien. Et là, justement, c'est une série qu'elle est vraiment, vraiment bien. Narcos, c'est donc une série télé américaine qui se déroule en Colombie. Et c'est vraiment une fiction historique. Hein. Ne vous attendez pas non plus à voir l'histoire respectée à la lettre. Mais ça, on en reparlera plus tard. De la traque de Pablo Escobar, le fameux magnat de la drogue des années 80, et son cartel de Medellin. Vous en avez peut-être entendu parler, hein. C'est le premier trafic de drogue dont on parle dans les livres d'histoire. En tout cas, l'histoire de Pablo Escobar, et c'est pas un hasard s'il y a plusieurs séries qui sortent sur la vie de ce mec-là, c'est complètement fascinant et complètement surréaliste. Il est arrivé à un tel niveau de richesse et de pouvoir que la Colombie, qui est quand même un pays souverain il est presque arrivé au pouvoir, enfin, pas exactement, vous le verrez dans la série, mais il avait un pouvoir politique immense. Et ce qui est complètement fascinant, c'est que pour le coup, c'est vraiment... Enfin, Pablo Escobar est vraiment issu de rien du tout, enfin, des banlieues de Medellin. C'est vraiment l'ascension d'un self-made man sur un marché extrêmement lucratif. On voit, et la série raconte aussi en parallèle, la lutte de la DEA, qui était donc les Américains, avec notamment les deux deux agents qui ont véritablement existé, Steve Murphy et Javier Pena, je sais pas si je prononce bien, ça se dit bien Ra, le
Ra,
J, ouais, Ra, Javier Pena.
Voilà, on va dire oui, hein, on va dire.
Le N avec une virgule dessus, ça se dit comment?
Peña.
Javier Pena. j'ai pris allemand, hein, à l'école. Et vraiment, on voit en plus cette espèce de tango de la muerte entre les États-Unis et la Colombie, ce rapport entre le fric, le pouvoir, la cocaïne, qui avait des répercussions géopolitiques. Là, on parle pas du tout du petit trafic ou des machins comme ça. Les proportions étaient absolument énorme, et la vie de Pablo Escobar est complètement surnaturelle. Là, on est en gros, moi, c'est ce qui m'a fasciné dans cette série, c'est un peu comme si on regardait... Ah mince, c'était quoi cette série très célèbre sur les patrons de la mafia
Sur HBO.
Le trou de mémoire.
Bref. Mon Dieu.
Ça me revient pas.
Les Sopranos. Oh là là.
Sopranos, ouf. Merci.
Je pense qu'il y a les cerveaux de 80% de nos auditeurs qui ont explosé
Les Sopranos, ce qu'il y avait de fascinant dans les Sopranos, c'est qu'on rentrait en empathie avec un gros dégueulasse, un gros salaud. Là, c'est tellement un salaud, Pablo Escobar, qu'on rentre pas vraiment en empathie, mais on est quand même fasciné. C'était un mec d'une rare intelligence, et en même temps un énorme beauf. C'est vraiment un mec sans éducation qui s'est retrouvé à la tête d'une fortune immense, qui a très peu de scrupules. On comprend aussi dans son éducation et son rapport avec sa mère comment une certaine frange de la population en Colombie peut arriver à ce manque de moralité absolue. Et c'est fascinant de se retrouver à presque le comprendre dans ses raisonnements. Bref, c'est une série que je conseille vraiment. Elle est intéressante aussi sur le fait qu'elle est moitié en espagnol, moitié en anglais. Ce qui est très rare pour une série américaine, parce que les Américains détestent lire des sous-titres. Ça s'explique aussi par le fait que Netflix prend aussi en compte quand même qu'il y a une population énorme parlant espagnol aux États-Unis et qui veulent conquérir aussi des marchés sud-américains.
C'est même plus que ça, hein, j'ai l'impression. Je sais qu'en France, en tout cas avec Marseille qui va arriver dans peu de temps, ils ont conclu un accord avec, je crois que c'était au niveau gouvernemental, pour s'implanter dans certaines conditions s'ils développaient l'activité culturelle en France. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la même chose pour l'Amérique du Sud, enfin pour la Colombie, et que parce que une énorme partie de l'équipe, tu disais que c'est une série américaine, c'est pas vraiment une série américaine, une énorme partie de l'équipe est colombienne, les acteurs sont tous colombiens.
Non, alors justement, c'est là où d'ailleurs les Colombiens ont un peu tiré la gueule quand ils ont vu la série, parce que je vais en parler à la fin. Il y a une autre série sur Pablo Escobar qui est une série colombienne qui est très intéressante aussi à regarder.
Mais c'est un mélange, quoi, c'est pas.
L'acteur est brésilien. Il ne parlait pas espagnol, et d'ailleurs il paraît qu'il a un accent qui est pas du tout un accent colombien. L'actrice qui joue sa femme est une mexicaine, sud-américain, mais c'est peut-être le seul reproche qu'on peut faire à cette série. C'est pour ça, c'est vraiment une fiction historique, elle a des conseillers historiques, mais c'est quand même ils sont esthétisés. Même l'acteur qui joue Pablo Escobar a pris 10 kilos pour s'approcher du personnage, mais quand vous voyez les vraies photos de Pablo Escobar, il était beaucoup moins beau quand même, et sa femme était beaucoup moins belle, et sa maîtresse moins sexy. C'est pas un documentaire, même si vraiment ils ont collé, et surtout ils mélangent habilement des moments de documentaire avec la série. Donc on rentre quand même, et ça montre bien les rapports qu'il y avait entre la Colombie et les narcotrafiquants, qui étaient très compliqués, les États-Unis et la guerre contre la drogue qui a fait des dégâts énormes sur tout un tas de fronts. Enfin, vraiment une série absolument fascinante. Et si justement ça vous intéresse, aujourd'hui, je crois qu'elle est reconduite, la série, donc elle n'est pas finie. Pour l'instant, on n'a qu'une saison, je crois, si je ne me trompe pas.
Ouais, ouais, ça
ils ont déjà gagné meilleure série télévision dramatique au Golden Globes 2016 et meilleur acteur pour la série télévisée dramatique. Mais je vous conseille de regarder également dispo sur Netflix Pablo Escobar, El Patrón del Mal, qui est la série colombienne de 113 épisodes. Ouf. Et là, je la trouve vraiment fascinante parce qu'on est dans une production colombienne, donc vous imaginez avec beaucoup moins de moyens, mais beaucoup moins esthétisante et surtout avec cette fascination bizarre hein, que la Colombie peut avoir pour Pablo Escobar. C'est quand même un personnage important dans leur histoire, mais un personnage extrêmement trouble. Et l'acteur dans la série colombienne, pour moi, représente beaucoup plus Pablo Escobar. Ils ont vraiment casté un acteur qui est moche, qui a l'air très... On sent le gros beauf très intelligent. Je sais pas comment exprimer, mais allez voir le jeu de cet acteur colombien. C'est complètement fascinant parce que parfois, on a l'impression d'avoir affaire à un bébé tellement il est débile sur certains trucs et son côté beauf à se construire un zoo privatif à se balader avec des slips moulants avec son gros bide et son cigare, mais en même temps un mec dès qu'il a les yeux qui se referment un peu d'une intelligence et d'un cynisme absolument redoutable. Et je trouve la série colombienne, il faut regarder les deux. La série américaine est beaucoup plus facile à regarder, Narcos. La série colombienne, 113 épisodes, il faut se les enfiler quand même. J'en suis qu'à la moitié, mais elle est fascinante aussi parce que c'est une vraie série colombienne sur leur vision de leur histoire en fait.
D'accord.
Donc les deux séries à regarder, Narcos et Pablo Escobar, El Patrón del Mal.
El Patrón del Mal.
El Patrón. Mais moi qui ne parle pas du tout espagnol, je regarde vraiment en VO et même en espagnol, et il faut absolument les regarder en VO. Ça vous donne beaucoup plus. Justement, tu dis El Patrón, c'est la manière qu'ils ont de se parler, quoi. C'est,
ah bien sûr.
On est d'une manière,
ouais. Non, mais avec quand on a regardé Narcos avec ma femme, toutes les deux minutes, on se retournait et à un moment on se disait Es una mentira. Tu vois, c'était vraiment le,
ça. C'est ça, c'est quoi. Exactement ça.
Donc non, c'est sûr que enfin d'une manière générale, faut regarder tout en VO quoi, quelle que soit la langue. Tu oui, perds oui. tellement quand ça passe en VF. C'est enfin les gens qui regardent Positron sont des gens de qualité, donc forcément ils regardent en VO avec les sous-titres au pire, mais.
N'est-ce tout pas? À fait. Surtout que, honnêtement, le doublage de la série colombienne Pablo Escobar, El Patrón del Mal, le doublage français est catastrophique, mais vraiment catastrophique.
D'accord.
Ouais.
Bon, Timo, tu l'as vu toi la série ou?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. J'ai commencé une autre série de merde qui s'appelle Shadowhunter, je crois. Qui est sur
ah oui, non, mais ça,
ah,
je crois
là,
que
Netflix commence à se diversifier un peu trop et faire de la merde. Parce que là, pour le coup, c'est pas terrible.
Bon, alors, parle-nous plutôt de comics, du coup.
Ouais, alors, moi, j'étais au Festival de la BD d'Angoulême le week-end dernier. Et il y a un comics dont j'ai parlé dans Geeking il y a un bout de temps, qui était un méga coup de cœur de la mort, qui a reçu une récompense, donc le prix de la meilleure série, et c'est Miss Marvel. Donc le tome 1 de Miss Marvel qui est sorti chez Panini, qui coûte environ 15€, c'est vraiment... pour le coup, ce personnage-là, c'était une grosse, grosse, grosse révélation. On n'est pas du niveau de l'ambiance de Batman, etc., où c'est très sombre et tout. Là, on est sur quelque chose de très joyeux, très, très lumineux, très, très frais et rafraîchissant dans cet univers des comics qui est parfois un peu hard. Donc, Miss Marvel, vous la connaissez peut-être sans doute avant sous le nom de Carol Danvers. Maintenant, ce n'est plus elle du tout. Donc, elle, c'est Captain Marvel maintenant, c'est une grande blonde, etc., qui va avoir son film Marvel bientôt.
Ouais, excuse-moi, je te coupe une seconde. En fait, Miss Marvel, c'est une série qui a été rebootée avec toutes les séries qui ont été rebootées il y a pas longtemps, non?
Oui, à peu près, ouais, c'est ça. C'est,
donc, c'est la nouvelle version que tu recommandes.
Ouais, la nouvelle version, donc c'est Kamala Khan. C'est une petite américaine musulmane, de confession musulmane. Ça avait d'ailleurs fait du bruit à cette époque-là parce que bon, c'est musulman, c'est dans les comics,
ouais, forcément,
c'est pas
ouais.
très bien vu. En plus, elle est pas blanche, etc. Carol Danvers était une grande blonde blanche aux yeux bleus. Donc bon, c'était un peu un parti pris couillu.
Et ils sont, ouais, c'était fait spécifiquement pour quoi.
Ouais. Ah ouais. Ils avaient commencé à l'introduire petit à petit dans Captain Marvel. On la voyait genre en août 2013, on l'a vu apparaître dedans. Et la série est sortie en février 2014 aux États-Unis. Et donc là, on suit une petite nénette qui est mais absolument fantastique, quoi. C'est une ado, fangirl absolue de Carol Danvers. Donc elle a des posters partout dans sa chambre d'elle et tout. C'est une geek. Elle écrit des fanfictions entre des histoires d'amour entre Wolverine et Tornade, etc. des trucs du genre.
Et, du vent et des griffes.
Ouais, de ce genre-là. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elle va interagir avec ses personnages plus tard, et elle va carrément le dire à Wolverine qu'elle a fait des trucs du genre. Donc elle a un franc-parler assez drôle, et dès qu'elle voit quelqu'un, elle est limite hystérique. Mmh. Et un jour, elle va être touchée par un gros brouillard. Bon, on sait ce que c'est plus tard. Et quand elle va ressortir...
Spoil pas trop, hein. Là tu me donnes envie déjà, donc je vais me précipiter Marvel Unlimited.
Ça, c'est le point de départ où, en sortant de ce brouillard-là, elle a des pouvoirs.
Okay.
Donc elle a des pouvoirs, elle sort carrément métamorphosée en Carol Danvers. Donc en Carol Danvers, elle va faire quelques trucs et puis elle va découvrir qu'elle a plein de pouvoirs. Elle peut grandir, rétrécir, et pas forcément de manière uniforme. C'est un peu un mix entre Ant-Man et Mister Fantastic, avec des bouts de Luffy de One Piece où elle peut grossir genre son poing pour donner un plus gros coup de poing, etc. Et ce qui rend ce personnage vraiment vraiment exceptionnel, c'est sa gaieté. Elle est positive tout le temps, bien qu'elle ait des contraintes avec ses parents. Voilà, c'est une ado. Elle a ses parents. Ils sont musulmans. Bon, au final, ça, on finit par s'en tamponner pas mal. On se rend compte que c'est traité de manière assez intelligente. On se rend compte que la religion, au final, pour tout le monde, c'est à peu près la même chose. Ça change pas grand chose à ta vie. Et puis, c'est un aspect que on n'en parle pas trop.
Ça reste dans le background, dans le.
Ouais, voilà, c'est ça.
Dans l'actuel.
C'est pas vraiment un truc pour dire, voilà, les musulmans, c'est comme ça, c'est ça, 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 ouais. ça.
C'est ni un truc genre pour dire, regardez, il y a aussi des gentils musulmans,
ouais,
ni.
Exactement. Voilà, quoi. Ouais. C'est ça. Du coup, ça fait vraiment ça, quoi. La famille, tu t'y attaches carrément. T'as tous les niveaux de confession, enfin, t'en as certains qui sont plus pratiquants que d'autres et tout, mais voilà, tu t'attaches à tous ces personnages-là, et c'est vraiment ce comics-là, c'est un gros parcours initiatique auprès de ses pouvoirs, des rencontres qu'elle va faire, des super-héros qu'elle va rencontrer, etc. Elle va avoir son premier ennemi à tabasser et tout. Bah, c'est vraiment, c'est extra. Les dessins D'accord. en plus sont vraiment ouf, donc il change un peu des traits des comics qu'on voit. C'est un poil plus esthétisé, on va dire. Et ça franchement, ça défonce.
Bah, j'ai une question, du coup. Est-ce que c'est un comics dans le style... moi, j'aime beaucoup les comics, mais il y en a que j'aime plus que d'autres, tu vois. Il y en a généralement, ça a tendance à virer vers le concon, ou il y a des trucs comme, par exemple, Civil War, qui est l'une des grandes... des grands arcs scénaristiques de Marvel, où au départ l'histoire, enfin le point de départ est hyper intelligent et hyper intéressant, avec une décision politique de suite à un incident de dire à partir de maintenant tous les super-héros vont devoir s'enregistrer auprès du gouvernement, et à partir de là, dans la communauté des super-héros, il y a des gens qui sont pour et qui sont contre, et là tu te dis ça peut faire un truc hyper intelligent et bien mené, etc. Mais en fait, dans la série, sur les 7 épisodes ou 6 ou 7 épisodes, c'est un petit peu couillon, moi je trouve, avec machin qui change de camp, il se tape dessus et puis il s'aime et puis il s'aime plus et puis voilà quoi. Là, est-ce qu'on a une écriture qui est un petit peu plus intelligente, ou est-ce que ça reste c'est sympa et ça se lit avec plaisir, mais c'est du comique, quoi?
Alors là, la différence, c'est que elle va pas sauver le monde. Elle n'a pas toute cette prétention là de vouloir sauver tout le monde et tout l'univers, etc. Elle est encore dans une phase où elle doit commencer à se faire connaître. Elle se demande encore comment je vais utiliser mes pouvoirs, qu'est-ce que je dois faire, comment tout ça doit se passer, etc. Donc il n'y a pas de grosse dimension très profonde derrière. C'est plutôt assez léger à ce niveau-là, au niveau des implications et de ce qu'elle doit faire. Ça reste plutôt cool, plutôt tranquille.
Ouais, mais c'est bien écrit, je veux dire. C'est
très très bien écrit.
Ouais, d'accord.
Par contre, c'est une begin story vraiment vraiment super cool.
D'accord.
Quoi.
Ok, bah écoute, tu m'as donné envie, ça va me donner une occasion de relancer mon Marvel Unlimited. Très très bien. Merci Timo. Bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode de Positron. Je vous proposerai, avant que nous ne nous quittions, de nous dire où on peut vous retrouver si les auditeurs se sont dit « Ah, ce petit Jérôme, il a l'air sympathique » ou « Ah, ce petit Timo, il a l'air gentil ». Où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver sur Internet, à commencer par « Honneur aux bizutés », Timo.
Ouais, alors ben moi on peut me retrouver dans Geek Inc, donc tous les vendredis soirs en live dans Geek Inc, le jeudi midi en live de 13h à 14h sur Geek Inc Inc, qui est une émission où on apprend à dessiner, donc tous ensemble, et sur une chaîne YouTube Too Many Books que j'ai lancée avec Audrey, qui ressemble à Miss Marvel d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi, mais donc là où on parle plus de comics et de littérature en général.
D'accord. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup Timo. Et ton Twitter, tu l'as dit ou pas ?
Non, je l'ai pas dit. C'est @abrutim.
Voilà, je voulais que tu mentionnes ce nom sublimement hein, trouvé. Jérôme, quid de tes activités internetiennes ?
Eh bien, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv, donc la chaîne YouTube où on fait tout un tas de tests et de dossiers sur la tech, et en live tous les matins à 8h pour les leftos, dans notre émission TechScope, tous les jours de la semaine à 8h, où on fait une revue de presse de la tech.
Magnifique, merci beaucoup Jérôme. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous savez que vous pouvez retrouver l'émission et les notes de l'émission sur frenchspin.fr avec d'autres podcasts qui vous plairont très certainement, comme au hasard le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu, par exemple. Allez explorer, il y a des trucs sympathiques là-bas aussi. On vous remercie d'avoir écouté. Et J'aimerais juste dire un dernier truc,
pour le plaisir. Oui. Patrick Béja, el patron del mal.
Ah, ça del sonne mal. Bien, hein. Mais t'aurais pu dire autre chose, je sais pas.
Ah bah non, Patrick Béja, el patron del mal.
Patrick Béja, el patron del podcast.
Del podcasta,
ok. Merci beaucoup Jérôme et rendez-vous dans deux semaines. Ciao. Thank you.